Garde promesse, gloire et honneur sur notre lignage. Brise promesse, honte et malheur sur notre héritage. Il y a 800 ans, le comte de Poitiers vivait sur ses terres. Dans son grand château, belle fortune, et dans sa cour, on l'honorait parce qu'il était aimable. Il était gentil avec tous, et aussi avec les gardiens de cochons, avec tous, avec les cochons eux-mêmes. Le comte de Poitiers avait un frère qui avait de nombreux enfants et beaucoup moins d'argent. Alors, il a proposé de prendre l'un d'eux en formation. Et il voulait le plus jeune, qui s'appelait Raymondin. Et c'est comme ça que Raymondin est allé à la cour du comte de Poitiers pour devenir un noble chevalier. Il a appris tout ce dont il avait besoin pour faire cela. Les langues mortes comme les vivantes, tous les chiffres. Il allait aborder l'art des étoiles. Il savait déjà parfaitement monter à cheval, il connaissait le maniement des armes. Et quand il allait aborder l'art des étoiles, il arriva ceci. On avait prévenu le comte de Poitiers qu'un sanglier blanc ravageait les cultures et commençait à s'attaquer aux gens. Alors le comte avait rassemblé tous ses chevaliers autour de lui et leur avait dit qu'il fallait que ça cesse. Il leur avait offert un grand banquet la veille au soir et le lendemain, dès l'aube, tous étaient prêts dans la cour pour faire la peau au sanglier blanc. Le comte de Poitiers était entouré de tous, ils étaient montés sur les chevaux qui piaffaient, il y avait la meute des chiens qui soufflait, et Raymondin qui était prêt, il adorait ça. La grande porte s'est ouverte, et le cortège a quitté le château, a traversé la ville, les sabots des chevaux claquaient sur les pavés, mais tous les gens n'étaient pas fâchés d'être si tôt réveillés. Ils ouvraient les volets et disaient « Longue vie au comte de Poitiers, mort au sanglier blanc !» Et le cortège est enfoncé dans la forêt d'automne, avec les ancêtres qu'on ne voyait pas, mais qui espéraient bien que leurs héritiers feraient aussi bien qu'eux. Et toute la journée, ils ont traqué dans la forêt ce sanglier blanc fameux. Ils le voyaient partout, chaque fois une petite tache blanche, ici, là, et puis qui disparaissait. Ils le voyaient partout, et surtout, ils l'ont vu nulle part. Et au soir, ils se disaient, « Honte sur nous, les ancêtres ne sont pas fiers. Et que dira le peuple quand on rentrera bredouille ?» Quand tout à coup Raymondin hurla, il est là ! Et il partit comme un fou sur son cheval, accompagné du galop et des cris de son oncle qui lui courait derrière et qui lui disait « Attends, attends, pas si vite ! La nuit, il y a les loups et tous les autres !» Et quand ils se sont arrêtés, dans la forêt profonde, ils ne voyaient même plus les sabots de leurs chevaux. « Bravo ! Même celui qui est né dans cette forêt n'arrive pas à en ressortir de nuit !» Il n'y a plus qu'à dormir ici. Fais un feu contre les loups. Je monterai la garde, dit Raymondin hauteux. C'est ça. Et quand le feu a été fait, Raymondin s'est allongé. Son oncle aussi, la tête sur la selle, il regardait les étoiles et il disait, c'est drôle. Tu vois, je t'apprendrai l'art de leur lecture quand on rentrera, mais tu vois, ce soir, ils me disent quelque chose de grave. Ils me disent qu'il nous arrivera bientôt un grand malheur, mais que de ce grand malheur sortira un grand bonheur. Bon, on ne peut rien contre les étoiles, dormons. Enfin, je dors et tu gardes. Et Raymondin garda. Et il garda toute la nuit. Et au petit matin, quand il a commencé à avoir des vagues dans ses yeux, il a senti le sol trembler. Et il a vu arriver la bête absolument colossale d'une taille énorme qui aplatissait la forêt sous son galop. Alors il s'est levé, il a tiré son épée, il a crié « À moi, mon oncle !» Il l'a fait voler dans le petit matin. L'oncle était déjà debout. Quand le sanglier était sur Raymondin, il a abattu son épée sur le dos, mais le dos était si dur que l'épée a glissé. Chac ! Est allé se ficher dans le ventre de l'oncle, qui a ouvert la bouche, qui a eu le temps de dire dans un flot de sang « Les étoiles !» Il s'est écroulé. Le sanglier est revenu à la charge. Raymondin l'a taillé en cube. Ça n'a rien changé au malheur. Et Raymondin est parti comme un aveugle dans la forêt pour hurler son chagrin. Il hurlait, il poussait son cauchemar devant lui, le cauchemar de ce ventre ouvert. Il hurlait. Et pourtant, il a quand même entendu au milieu de ses hurlements une petite voix qui lui disait « C'est comme ça qu'on salue les dames ?» Oh. Dans le clair matin, il y avait une fontaine. De la fontaine jaillissaient des pieds charmants, de jolis mollets qui donnaient naissance à des genoux d'où jaillissaient des cuisses que l'on devinait, entourées d'un ovale dont je ne vous parlais pas, qui laissait jaillir un torse au doux vallon avec des épaules parfaites et des bras faits pour la danse, un cou de renne et un menton coquin, une bouche de cerise, un nez parfait, des grands yeux inspirés, un manteau, ou plutôt des cheveux comme un manteau. Alors, c'est ainsi qu'on salue les dames? Raymondin a mis le genou en terre et a récité un compliment comme on lui avait appris. Raymondin. Alors là, de s'entendre appeler par son prénom, ça l'a réveillé tout à fait. Je sais qui vous êtes et je sais ce qui vient de vous arriver. Et puis elle n'a plus parlé. Mais elle a très bien vu, elle qui savait tout, le feu de l'amour qui commençait à gronder dans le cœur de Raymondin. Voulez-vous m'épouser?
Oh ben oui.
Raymondin, savez-vous tenir une promesse?
Oh oui, hein.
Ah, Raymondin, l'homme parle vite, mais il agit lentement. Ma promesse est celle-ci. Il faudra toujours laisser mon samedi.
Oh, samedi, samedi, jour banal dans la semaine, je vous le laisse, tiens, je vous le donne tout de suite.
Attendez, ce samedi reviendra semaine après semaine. Alors au début, ce sera simple. Et puis à la longue, ça vous agacera. Les hommes aiment bien tout savoir, puis spécialement le samedi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait, ma femme, le samedi? Comme un fuseau horaire qui traversera notre vie, ce samedi sera mon secret. Tiendrez-vous?
Promis, j'irai cracher.
Alors, Raymondin, vous allez rentrer à Poitiers, annoncer la mort de votre oncle par accident. Et après l'enterrement, réclamer un peu de terre. Autant de terre que pourra en contenir une peau de cerf taillée d'une certaine façon. On vous donnera ça, certainement, facilement. Et quand vous sortirez, vous verrez quelqu'un qui vous vendra cette peau de terre. Vous l'acheterez et vous reviendrez ici, à cette fontaine que vous retrouverez. Et vous commencerez à laisser la peau de cerf taillée en ceinture sur la terre. Et au soir, vous verrez toute la terre que vous aurez, avec cette fontaine-ci au milieu, où vous reviendrez lundi prochain pour notre mariage. Je peux juste savoir votre nom? Mélusine. De qui, de quoi, de où, qui sont vos pères? Vos armoiries et tout? Mélusine, il vous suffit. Et puis elle a disparu. Dans le petit matin, il n'y avait plus que la fontaine qui gargouillait. Alors il s'est dit en homme raisonnable, c'est un rêve. Et puis il s'est retourné et il a vu le gauchoir du ventre ouvert. Alors il a préféré croire au rêve et il est retourné à Poitiers. Et il a fait comme la dame lui avait dit. Et il a eu une vaste terre dans la peau de cerf. Et puis il a dit, je vous invite lundi pour mon mariage. Ah bon, dit les autres, tu étais en goguette, tu ne nous as rien dit, comment s'appelle-t-elle? Mélusine, mais de qui, de quoi? Qui sont ses pères et son pays, ses armoiries et tout? Mélusine, il vous suffit. Mais le lundi qui a suivi, quand il s'est retrouvé sur le cheval, avec tous ses amis chevaliers derrière pour son mariage, Raymondin s'est dit, si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, je vais vers la honte. On chantera de moi des chansons d'idiots, ou pire, on m'oubliera à l'instant comme un fou dont la mémoire ne mérite pas de retenir le nom. Et quand il est arrivé à la clairière, tout était prêt. Tout était déboisé. Il y avait des tentes partout pour accueillir les chevaliers, pour accueillir leurs dames, pour les cadoter, pour les faire se reposer. Et la tente la plus belle était la centrale. Elle était immense, avec des soieries à l'intérieur. Et il y avait des grandes colonnes avec des chandelles et puis des fleurs qui s'ouvraient et se refermaient et formaient des arcs-en-ciel jusqu'au ciel. Et puis Raymondin, il attendait. On est toujours un peu sot dans ces moments-là. Et quand Mélusine, elle est entrée, alors que tous se disaient « Mais c'est qui celle-là ?» Plus personne n'a rien dit. C'est comme si le soleil entrait. Et quand elle est arrivée, elle a pris la main de Raymondin. La promesse, promis, juré. Et quand ils se sont dit oui pour la vie, c'est comme si le ciel tombait dans la grande tente. Et puis après ça, il y a eu des chants, il y a eu des ripas, il y a eu une fête qui n'en finissait pas. Et Raymondin et Mélusine sont partis discrètement dans une tente obscure que la dame de la nuit avait fait avec ses voiles pour qu'on ne les embête pas.
Et ce soir-là, ils ont fait ce qu'il fallait pour engendrer le premier pilier de leur lignée. Et l'ovale de Mélusine s'est agrandie, s'est arrondie. Elle portait le monde et la lumière du monde avec elle. Et Raymondin était à côté. Il était fier, il était presque père. Et elle lui a dit, « Mon ami, que penseriez-vous d'un château pour abriter notre lignée ?»« Oh oui !» Alors ils ont travaillé avec des constructeurs de châteaux tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, qui est le jour du Seigneur. Et un matin, Mélusine sur son cheval noir et Raymondin sur son cheval blanc voyaient déjà les fondations du château qui s'élevaient. « Mon ami, je crois qu'il est temps. » Et ils n'ont eu que le temps de galoper jusqu'à leur maison provisoire. Ils ont poussé la porte. « Chla ! Il est tombé le premier fils !» que Raymondin a nommé Urian et auquel Mélusine a donné une partie de son nom, Lusignan. Et puis il y a eu le baptême. Et là est apparu ce qui existait en fait déjà. C'est qu'Urian avait des oreilles de la taille de sa tête chacune. « Mon ami, il entendra tout, il saura tout. C'est merveille pour un futur chef de guerre. » Mais Raymondin souriait. Le peuple acclamait, les cloches sonnaient, il était prince, il était père. Et le soir du baptême, ils ont fait tous les deux ce qu'il fallait faire pour engendrer le deuxième pilier de leur lignée. Et l'ovale de Mélusine s'est agrandie, elle portait le monde et la lumière du monde avec elle. « Mon ami, que penseriez-vous de construire une ville pour notre bon peuple ?»«
Oh, bah oui. »
Alors ils ont travaillé avec des constructeurs de villes tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, qui est le jour du Seigneur. Et puis, devant les fondations de la ville qui déjà s'élevait, mon ami, il est temps, tagadac, tagadac, dans le château construit, ils ont poussé la porte, monté l'escalier, chla ! Un deuxième fils. Raymondin a donné le prénom, Eudes. Et Mélusine a continué à donner le nom de la lignée, Mélusignan. Et après le baptême, rien. Le peuple acclamait, les cloches sonnaient, Raymondin était fier, il était prince, il était père. Et le soir du baptême, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour engendrer le troisième pilier de leur lignée. Et Mélusine a vu son ovale s'agrandir, lumière du monde et tout ça. Et elle a dit, que penseriez-vous, mon ami, de travailler avec des constructeurs d'abbayes? Une abbaye pour y mettre Dieu et le prier tous les jours. Ainsi des moines prieront pour notre bonne fortune et celle du monde entier. Alors ils ont travaillé tous les jours avec des constructeurs d'abbayes, sauf le samedi et le dimanche qui est le jour du Seigneur. Et devant des fondations de d'abbayes qui déjà s'est levé. Mon ami, il est temps, tagadagadagadaga, chla ! Encore un fils, il ne savait faire que ça. Les cloches sonnaient, le peuple acclamait. Et au moment du baptême est apparu ce qu'il y avait déjà. Le petit Guyon, car il a été nommé comme ça, avait un œil pour surveiller sa pensée et un autre pour surveiller sa parole. C'est pas grave, ce regard oblique, mon ami lui conférera un air étonnant qui lui donnera de l'autorité. Et Raymondin souriait. Il était prince, il était père. Et le soir du baptême, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour faire le quatrième pilier de leur lignée. Ça va pas durer une heure, ils en ont eu 8. Et Mélusine a dû beaucoup sourire pour faire accepter l'œil unique de Renaud qui sera comme un phare pour les nations. La patte de lion d'Antoine, qui lui donnera un air de force, mon ami, n'ayez crainte. La dent immense de Geoffroy qui raclait le sol. La tache en poil de loup de Fromont et cet œil arrière d'horrible. Mais sur les champs de bataille, mon ami Raymondin, il saura les coups bas qu'on lui fera par derrière. Il vivra 1000 ans, c'est évident. Et Raymondin souriait. Il était prince, il était père. Le peuple sonnait, les cloches acclamaient. Et le nom de Lusignan frémissait. Car Mélusine, non seulement faisait des monuments à l'intérieur d'elle-même, mais elle continuait les monuments à l'extérieur d'elle-même. Et puis après l'abbaye, il y a eu le port de La Rochelle. C'est elle qui l'a fait, on oublie de le dire. Et puis il y a eu des ponts, il y a eu encore des villes. Et quand les chantiers n'allaient pas assez vite, elle prenait son petit à la mamelle, le dernier né, et puis d'autres sur le dos. Et la nuit, elle se transportait dans les airs avec des cailloux immenses que 100 hommes n'arrivaient pas à soulever. Chla, elle les lâchait sur le chantier pour que ça aille plus vite. Mais il faut pas tout croire. Les chroniqueurs sont un peu laissés aller. Il faut sentir à la vérité. Ce qui est sûr, c'est que le nom de Lusignan frémissait et voulait passer outre la ville, la région, le port de La Rochelle. Il voulait partir loin. Et c'est ce qui s'est passé le jour des 18 ans d'Urian. Ses pères et mères retournaient d'une tournée des bonnes villes où on les acclamait. Et Urian les attendait. Le Poitou et la Vendée, leur a-t-il dit, notre héritage, c'est bien, mais c'est trop petit pour nous, vos 8 fils. J'ai envie de conquérir d'autres mondes. Et Mélusine était fière. Elle savait que c'est ainsi que parleraient ses fils. Alors elle est partie dans sa boîte à bijoux et elle a sorti la première des 8 bagues préparées pour la conquête. Fils, tu es un Lusignan. Prends cette bague de la bonne action. Chaque fois que tu seras dans le droit chemin, il brillera. Quand tu seras dans le mauvais chemin, elle ternira. Fils, ta flotte est prête. Prends un de tes frères cadets et fais-nous honneur. Et n'oublie jamais la veuve et l'orphelin et tout. Et le lendemain, Urian, avec son petit frère Guyon, fendait les flots vers l'Orient. Ils avaient l'impression que le monde frémissait d'être découvert par eux. Et les 2000 guerriers les accompagnaient. Et après des jours et des jours de mer giflante, ils ont accroché leur flotte au flanc de Chypre. Et Urian a envoyé des espions. Mais ce que les espions ont rapporté les a fâchés, les deux fils Lusignan. Dans la capitale de Chypre, Famagouste, se mourait un vieux roi avec sa fille unique, la belle Hermine. Et ce vieux roi était encerclé par le grand Turc et ses soldats. Alors Urian réfléchissait. Il faut sauver ce vieux roi et la belle, et la bague a brillé. Et pendant ce temps-là, la déesse de la guerre s'ennuyait. Elle était là sur son bouclier, là, et elle consultait à livre ouvert. Rien, rien, rien. Quand tout à coup, elle a vu les deux fils Poitevin, avec leurs 2000 guerriers, et puis là, l'armée innombrable du Grand Turc. Et elle s'est dit, voilà un combat où je peux intervenir, un combat inégal où je peux inverser la force des choses. Alors elle s'est fait toute petite, elle s'est mise dans l'oreille d'Urian et lui a chuchoté un plan d'attaque. Et Urian, très fier de cette inspiration qu'il croyait tenir de ses pères, l'a suivi et a fait lever ses hommes sur la minuit. Et les a fait se grimer en jeans, enduits de glaise et de charbon, bouchés de sang et de moignon, crochets aux mains, clochettes aux mains, torchères sur les chevaux de guerre. Et quand tous étaient prêts, ils ont attendu le signal. Magie de l'aube, tout s'est tu, c'est le signal. Enduits de glaise et de charbon, bouchés de sang et de moignon, crochets aux mains, torchères sur les chevaux de guerre, les sabots claquent, le sang tremble, les armes claquent, les hommes crient leur peur pour la jeter à la tête des ennemis jurés. En face, l'alerte, les armes saisies, lancées, cimetières, armures remises, épées, visières levées au ciel, des pans-drapeaux, souffle des hommes et des chevaux, tambours pour rythmer la terreur, course folle de vie, de mort. Pour Urian et Guyon, il n'y a plus d'avant ni d'après, il n'y a plus de plan ni d'action, il n'y a plus que leurs jambes qui serrent leurs chevaux, leur cœur qui bat jusqu'aux mains et des corps à trancher. Et la déesse, elle, le moment qu'elle préfère, c'est quand les deux premières lignes ennemies s'écrasent et se broient. Après, ça devient besogneux. On ne sait plus très bien à qui appartiennent ces têtes et ces corps éparses. Mais là, tout est différent. Le grand Turc hallucine. L'ennemi est devant et ses hommes qui ont une peur horrible des djinns filent derrière. Alors il hurle ses ordres et ses menaces encore. Armes ressaisies, lancées, cimetières, armures remises, épées visières. Mais c'est trop tard. Urian est dans le camp du grand Turc avec ses soldats dont il arrache les fanions. Il le jette à terre. Ça n'est plus un choc, c'est un sac. Et la bataille dure et la déesse la regarde de là-haut. Et elle ne sait plus très bien à qui appartiennent ses têtes et ses corps éparses. Mais il monte une chanson, jette, croule, les tripes, pleure et enfin meurt. Mais les soldats poitevins ne sont que 2000. Alors, au milieu de l'odeur des ventres ouverts et du sang, elle doit souffler la fameuse odeur de la victoire. Et Urian, qui est sous le grand Turc, retrouve la force de le fendre jusqu'aux dents. Et le soir venu, les portes de Famagouste s'ouvrent. Et Urian est reçu comme le sauveur. Le peuple est à genoux, le vieux roi le regarde, Hermine baisse la tête, et on n'entend plus que flotter les mains du vieux roi et les oreilles d'Urian. La déesse de la guerre va voir celle des mariages. Ça bloque. Fais quelque chose. J'ai pas fait tout ça pour rien. Alors la déesse des mariages arrive, comprend tout de suite la situation, recolle les oreilles d'Urian à la colle forte, pince les fesses d'Hermine pour qu'elle relève la tête, se fait toute petite dans la bouche du vieux roi et dit avec sa voix « Vous avez sauvé mon pays et mon honneur. Sauvez-le à jamais. » Et il prend la main d'Urian. Et il prend la main d'Hermine et les rassemble. Et pour eux, c'est plus qu'un baiser. Musique ! L'orchestre céleste entonne la marche nuptiale. Deux anneaux d'or tombent du ciel, un curé sort de derrière les rideaux et les marie. Et le soir, ils font ce qu'il faut pour se donner la force d'être couronnés le lendemain matin et d'enterrer le vieux roi le lendemain soir. Alors, la déesse de la guerre et des mariages, qui se détestaient tant avant, se sont trouvées avec les Lusignans beaucoup de points communs. Elles ont feuilleté l'annuaire des riches héritières, sans frère, au père à moitié mourant. Elles les ont notées, elles ont mis dans le cou les dieux du vent. Et chaque fois qu'un Lusignan reprenait la mer, le dieu du vent soufflait par-ci, soufflait par-là. Ça a été la Bohême, ça a été le Luxembourg, ça a été d'autres terres encore. Et Guyon, et Renaud, et Antoine ont pu écrire à leur papa et leur maman qu'ils étaient tous devenus rois grâce à leur bravoure et leur honneur, et qu'elles s'appelaient Florie, Chrétienne et Glantine, et qu'ils étaient rois de Bohême, de Luxembourg et d'Arménie. Mais le cas du sixième était un peu plus compliqué. Geoffroy avait une dent jusqu'à ses pieds. Avec cette dent-là, quand il a été en âge de sortir et d'aller au bal, il y avait toujours une frontière entre lui et ses cavalières. Et pourtant, avec de tendres mots, il essayait des rapprochements. Mais jamais ça ne marchait, elle s'enfuyait avant. Alors, il s'est fait une petite spécialité. Il avait entendu dire qu'il y avait beaucoup de géants croqueurs de pucelles ou qui voulaient des jeunes filles en échange d'autres choses. Et chaque fois, il allait au devant pour leur couper ou leur fendre le crâne. Alors on appelait toujours « Geoffroy la grande dent, viens donc nous aider contre ces géants !» Et chaque fois qu'il venait vers la jeune damoiselle pour quérir son remerciement, elle partait avant. Mais c'est pas grave, il continuait sa vocation, au moins ça l'occupait, un géant j'accours. Mais ça ne rompt pas la solitude. Heureusement, il avait un petit frère, Fromont, celui à la tache en poil de loup. Alors il lui disait « Viens, on s'amuse mieux quand on est à deux pour pourfendre les géants et aller se battre. » Mais Fromont, vous voyez, lui, il parlait avec Dieu. C'était même son activité toute la journée. Et Geoffroy n'arrivait pas à lui dire « Prends les armes, viens avec toi, avec moi, on a du sang de chevalier bouillonnant, non, non !» Fromont, il restait là dans ses prières, rien n'y faisait. Et Geoffroy était toujours seul là-bas dans ses contrées. Quand une après-midi, Raymondin a reçu son frère. C'était un samedi. Il l'a emmené visiter son château, visiter la ville d'alentour, et chaque fois on lui disait « Bonjour, monseigneur !» Et Raymondin disait « Voyez comme on m'aime !» Et le frère commençait à s'énerver. Et puis au moment du banquet, tout le monde était aimable, et le frère à côté de Raymondin lui a dit « Dites-moi, on est samedi, mais l'usine donc n'est pas là, oui, je suis au courant. » Mais il faut quand même que je vous dise, vous êtes un peu ridicule. Tout le monde sait ce que sa femme fait le samedi, et vous, non, rien. Écoutez, il faut quand même que je vous dise, on vous salue bien bas dans votre ville, mais derrière, on chuchote. Mais l'usine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en goguette, peut-être? Oh, ça encore, ce ne serait rien. Mais mon devoir est de vous dire que l'on murmure qu'elle a quelque affaire, peut-être de sorcellerie. Oh, je suis désolée de vous dire. Il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase que Raymondin l'a attrapé par le col et l'a jeté hors du château, l'envoyé rouler. Mais c'était trop tard. L'idée, elle, roulait aussi dans la tête. Alors Raymondin, le soir lentement, est allé vers la fameuse tour. Oh, lentement, juste un instant. Il a pris le long couloir, et puis il a vu la porte qui était fermée puisqu'on était samedi. Et alors là, il a mis son œil par le trou de la serrure, parce qu'après tout, un mari a le droit de savoir ce que fait sa femme le samedi. Briser promesses, honte et malheur sur notre héritage, un homme a le droit de savoir ce que fait sa femme le samedi. Et par le trou de la serrure, il a vu une grande baignoire de marbre, et puis dedans, une belle femme qui se coiffait en se mirant dans un miroir, et à l'autre bout de la baignoire de marbre, une énorme queue, une queue couverte d'écailles qui frémissait, frétillait et faisait gicler l'eau jusqu'à la voûte. Alors, Raymondin, il est parti en reculant. Il s'est couché dans son lit jusqu'au dimanche matin. Et quand il a entendu Mélusine arriver, il s'attendait à tout, il a fermé les yeux et il a juste vu son visage se pencher sur elle. « Mon ami, vous êtes fiévreux, je vais vous soigner. » Alors Raymondin s'est dit « J'ai vu mais elle sait pas, on peut continuer !» Et tout a continué. Et Fromont est venu un mercredi dire à ses pères et mères qu'il voulait entrer au couvent. Mélusine était fière, elle lui a donné la bague. Et puis Fromont, une fois parti, elle a écrit des lettres à tous ses fils rois pour les prévenir. Et en écrivant la lettre pour Geoffroy, elle savait que ce serait un peu plus compliqué. Geoffroy a reçu la lettre par coursier. Et quand il a lu que dans cette lettre, Dieu lui volait son frère, son seul ami, il est allé sur son cheval et il a galopé 3 jours durant sans s'arrêter. Le vent soufflait dans ses yeux et les séchait. Et quand il est arrivé à l'abbaye où Fromont était censé être, il a fermé toutes les portes, il a allumé une torche qu'il a jetée sur le toit. Et puis il est remonté sur la colline d'en face et il a regardé l'abbaye brûler. C'était beau! Et quand l'abbaye s'est consumée, il a réalisé ce qu'il avait fait, il a hurlé, il est parti en galopant et on ne l'a plus revu. Et le peuple est venu en rang serré raconter à Raymondin ce qui s'était passé. On était samedi soir, Raymondin a reçu la nouvelle tout seul et il a eu toute la nuit pour y penser. Et le dimanche matin, Mélusine est arrivée tout doucement vers lui. Et elle lui a dit, mon ami, je sais ce qui s'est passé, mais c'est ensemble qu'on va le surmonter. Et lui l'attendait avec tous ses chevaliers. Et lui a dit, ne bougez plus, maintenant je sais. La patte de lion, la tache en poil de loup, tout ça je sais. Je sais qui vous êtes, fameux serpent, allez-vous-en. Et au moment où le mot sortait de sa bouche, il le regrettait déjà. Et il voulait l'attraper, comme ça, comme ça. Mais le mot était parti. Et le mot s'est promené, est entré dans toutes les oreilles des chevaliers. Le mot s'est cogné au mur et Mélusine est tombée. Et quand Raymondin a essayé de la relever, elle l'a regardée et lui a dit « Vous saviez et je savais, mais vous n'aviez rien dit. Maintenant que le mot est sorti, je n'ai plus qu'à repartir. » Et Raymondin était à genoux. Et il essayait d'empêcher les écailles monter sur ses jambes. Et Raymondin était à genoux. Et il essayait d'empêcher les écailles de monter. Mais elles montaient toujours. Et Mélusine n'a eu que le temps de se traîner vers la fenêtre. Et puis elle a regardé Raymondin. Elle lui a donné ses dernières instructions. Et puis elle s'est envolée en criant. Et avec ses yeux, sa queue de serpent, elle a cogné tous les murs alentour et toutes les tours qui lentement se sont écroulées. Et elle a disparu. Et l'on dit qu'elle pleure à la mort de chacun de ses héritiers. On dit qu'elle crie. Et je connais quelqu'un auquel on a téléphoné. On lui a dit « Monsieur Georges », elle a crié. Et 3 jours après, encore un de ses héritiers est mort. Tout est vrai.